Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette 33e soirée d'éthique publique, la 6e de cette année universitaire du Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris. Bienvenue aux fidèles de ce rendez-vous, le premier mardi de chaque mois. Bienvenue aussi, bien sûr, à ceux qui viennent pour la première fois. Le mois dernier, nous étions nombreux à nous retrouver pour évoquer les élections présidentielles et nous demander comment, comme chrétiens, nous pouvions nous situer face aux enjeux de ces échéances politiques. Je rappelle qu'il est possible d'écouter ou de réécouter l'enregistrement de la soirée, et de toutes les soirées précédentes d'ailleurs, sur le site internet du Centre Sèvres, www.centresèvres.com. Avant d'aborder le thème de ce soir, je voudrais vous rappeler que le département d'éthique publique, on ne le sait pas assez sans doute, propose à côté de ces soirées, le premier mardi de chaque mois, un certain nombre de cours, de séminaires, d'ateliers. Alors n'hésitez pas à vous plonger dans le programme du Centre Sèvres et je voudrais vous signaler deux cours, deux enseignements, bref, de courts enseignements dans les temps à venir qui pourraient intéresser peut-être un certain nombre. Le cours de Bertrand Herrière-Dubreuil, jésuite, directeur du CERAS, étude des grands principes de la doctrine sociale, un cours de 5 séances de 2 heures, le mercredi soir, de 19h30 à 21h30, du 4 avril au 9 mai. Et puis un autre cours, celui de Benoît Guillou, qui est rédacteur en chef de la chronique d'Amnesty International, sur la dimension politique du pardon. C'est un cours de 4 séances de 2 heures, également le mercredi de 19h30 à 21h30, au mois de mai, du 2 au 23 mai. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous renseigner au secrétariat si cela vous intéresse. Après cette page de publicité, eh bien, venons-en au thème de notre soirée. C'est une autre élection qui retient notre attention ce soir, mais en Russie, où, nous le savons, Vladimir Poutine a remporté dimanche dernier avec, je crois, près de 64% des voix, la présidentielle au premier tour. Après avoir laissé son bras droit, Dmitri Medvedev, lui chauffer la place de président pendant 4 ans, le Premier ministre Vladimir Poutine a retrouvé le pouvoir pour un 3e mandat. Rien ne semble donc pouvoir remettre en cause son autorité sur le pays. Et pourtant, il semble que des choses ont changé. On croyait les Russes endormis, dépolitisés, voire soumis. Mais depuis les législatives du 4 décembre, ils protestent à intervalles réguliers dans les rues contre les maux du système Poutine, la fraude électorale, la corruption et Poutine lui-même. Cette vague de contestation sans précédent contre le pouvoir semble indiquer qu'on est entré dans une période nouvelle de l'histoire de ce pays. Il nous a semblé donc important de nous arrêter sur cette réalité sociopolitique russe que nous connaissons finalement assez mal en France. Quelle est la situation politique de cet immense pays qui cherche également à redevenir une puissance majeure? Où en est la démocratie? Peut-être aussi aurons-nous l'occasion d'aborder des questions autour de sa politique étrangère et puis du rôle que joue dans toutes ces évolutions l'Église orthodoxe. Pour essayer de répondre à ces questions, je suis heureux d'accueillir en votre nom de spécialiste de la société russe contemporaine. D'abord, Myriam Désert, agrégée de russe, vous êtes maître de conférence à l'université de Sorbonne Paris 4, où vous enseignez notamment la civilisation russe et la sociologie politique de la Russie contemporaine. Chercheuse associée au Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centres européens. Vous êtes l'auteur de très nombreux articles et contributions sur l'évolution de la société russe. Ce n'est pas la première fois que vous venez au Centre Sèvres. Merci beaucoup d'être revenu aujourd'hui et d'être avec nous ce soir pour nous éclairer sur ce qui se passe en Russie. Avec vous, quelqu'un que vous connaissez bien, Anne Le Houerou, que nous entendions hier sur les ondes de France Info, commenter l'actualité. Bienvenue parmi nous. Vous êtes, je crois, enseignante à l'Université du Havre.
Plus en ce moment, mais vous avez été.
Voilà. également chercheuse associée au Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centres européens et au Centre d'analyse et d'intervention sociologique à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez travaillé ces dernières années sur les mouvements sociaux en Russie, la démocratie locale et la société civile, sur les questions de violence aussi en lien avec le conflit tchétchène, et vous avez notamment coécrit « Tchétchénie, une affaire intérieure » publiée aux éditions Autrement en lien avec le CERI en 2005. Et vous êtes également co-auteur avec Myriam Désert d'un ouvrage avec d'autres auteurs, « La Russie contemporaine » qui est paru en 2010 chez Fayard. Vous pourrez nous donner vos impressions et vos analyses. Je crois que vous étiez il y a peu de jours en Russie. Merci de votre présence parmi nous ce soir. Alors, sans plus attendre, eh bien, je vous laisse la parole. Je crois que nous commençons par vous, Myriam Désert. Selon l'habitude de ces soirées, 20 minutes chacune, avant de prendre le temps du débat tous ensemble. Merci.
Donc vous faites des signes désespérés si ça ne marche pas. Nous avons choisi, donc vous êtes, j'imagine, inondé d'informations sur la Russie. En ce moment, on parle de la Russie un peu partout. Donc notre problème était de vous proposer une approche un peu différente, un peu originale. Donc nous avons choisi de nous focaliser sur ces mobilisations sociales, qui sont une surprise pour les acteurs eux-mêmes, puisque beaucoup des gens qui se sont retrouvés dans la rue en décembre, quand on les interroge, disent eux-mêmes qu'une semaine avant, ils n'envisageaient absolument pas cette démarche. Et donc, pour se partager le travail, comme toutes ces surprises, il y a toujours quand même une dynamique antérieure. Donc moi, je vais parler de la dynamique antérieure au 4 décembre. Je vais vous parler d'un certain nombre de frémissements qu'il y a eu dans la société, qui permettent de comprendre comment donc quelque chose va prendre en décembre, et Anne donc prendra la relève et racontera les cristallisations qu'on a pu observer après les fraudes aux élections de décembre, puisque c'est ça qui a été le facteur déclenchant des grandes manifestations dont vous avez tous entendu parler. Donc c'est bon. Donc je voudrais donc revenir sur un certain nombre de mobilisations pour camper un peu les acteurs, et non seulement les acteurs, mais les motifs et la scénographie aussi des mobilisations dans la Russie des dernières années. Traditionnellement, on dit que il y a eu des grandes manifestations en 2005 qui sont traditionnellement présentées comme le chant du cygne de l'Homo Sovieticus. Chose que je conteste. Donc, je vous rappelle ce qu'étaient ces mobilisations. C'était lié des mobilisations suite à ce qu'on appelait la monétisation des avantages sociaux, c'est-à-dire que les retraités, les étudiants ont vu transformer en argent la gratuité des transports, par exemple. Enfin, un certain nombre de bénéfices sociaux donc ont été supprimés et ont été transformés en argent. Et donc, il y a eu mobilisation dans la rue, des barricades, donc des transports urbains bloqués, etc. Et donc, là où je suis pas d'accord avec la lecture chant du cygne de l'Homo Sovieticus, c'est que dans les entretiens qu'on pouvait faire avec un certain nombre de ces personnes, essentiellement effectivement âgées et révoltées, il y avait l'idée qu'ils perdaient un signe de reconnaissance sociale, que la gratuité, quand on monte dans un bus, c'était un hommage qu'on rendait au fait qu'ils avaient été vétérans de la guerre, vétérans du travail. Et donc ce thème de la dignité bafouée, qu'on trouve aujourd'hui dans les manifestants qui descendent dans la rue depuis le mois de décembre, en fait, elle était déjà dans ce qu'on a, à tort, à mon avis, qualifié comme chant du cygne de l'Homo Sovieticus. Donc voilà, je voulais partir de ça parce que justement, en fait, c'est pas déconnecté, je pense. On a tort de le déconnecter de ce qui s'est passé aujourd'hui. Deuxième moment, j'aimerais m'arrêter sur une revendication corporative. Je dis corporative et pas corporatiste, parce que je voudrais parler des différents mouvements qui se sont cristallisés autour des automobilistes. Si vous avez regardé sur Arte la semaine dernière le reportage qui s'appelle I Love Democracy. Si vous ne l'avez pas vu, précipitez-vous sur le site d'Arte tant qu'il y est encore. C'est un très bon documentaire. Ça commence par la révolte des automobilistes en 2008 à... aide-moi. Vladivostok, merci. À Vladivostok, donc révolte qui est liée au fait que donc toute cette région de l'extrême-orient russe vit grâce au commerce des voitures japonaises avec volant à droite et que tout d'un coup le pouvoir décide d'interdire ces voitures avec volant à droite. Et donc il y a cette mobilisation. En fait, donc dans le reportage on montre ça le 2008, il y en avait déjà eu avant. Et donc cette première revendication des automobilistes russes, en fait c'était une revendication. Le droit à la survie économique. Cette région qui est complètement abandonnée par le centre, elle ne réussit à survivre que parce que elle peut commercer, elle peut faire le commerce de ses voitures à volant à droite. Si on les interdit, elle meurt. Enfin, cette région va mourir économiquement. Donc là, on a une revendication survie économique. Mobilisation suivante, chronologiquement, ça a été les garages Niki. Les garages Niki, ce sont donc des propriétaires de garages. Les garages ont poussé à la périphérie des grandes villes en même temps que se multipliait le parc automobile russe. Et c'est qu'effectivement, d'un point de vue urbanistique, c'est très moche. Ce sont des choses en tôle, etc. Et avec la croissance immobilière, on s'est mis à récupérer, les villes se sont mises à récupérer ces espaces et à détruire les garages qui avaient été construits de façon effectivement souvent plus ou moins sauvage par les propriétaires. Et donc il y a eu des mobilisations très fortes. Et là, ce qui est intéressant, c'est le nouvel argument qui s'est greffé à ce moment-là. On a vu des nouveaux arguments. Donc un déjà qui est l'idée du lien social, que ces endroits étaient des espaces de convivialité, ce qui est vrai. Donc ça, effectivement, et surtout donc le droit à la propriété. Et on a vu des associations donc de défense de ces garages Niki, donc garages Niki, propriétaires de garages, qui ont mis sur leur site la façon de d'ester en justice, etc., pour défendre ce droit à la propriété. Donc on voit appropriation du droit. Troisième moment, de manifestation des automobilistes. À Kaliningrad et à d'autres endroits, au moment d'installation de routes à péage. Donc ça, c'était à Kaliningrad. Et on voit à ce moment-là un slogan qui apparaît, là, en russe, ça rime. Donc j'ai quand même le dire en russe, s'il y a des russisans parmi vous. Platim nalog, khatim dorogi. Donc ça, vous entendez que ça rime. Donc nous payons des impôts, nous voulons des routes. Et c'est un slogan qui montre que là aussi, on change de grandeur. On n'est plus dans la révolte simplement du consommateur, on est dans la révolte du contribuable. Et donc, on convoque le contrat social. Donc tout ça, c'est bien avant 2010. C'est bien avant 2012. C'est en 2010. Dernier moment, dernière grosse mobilisation liée au mouvement des automobilistes dont vous avez sûrement entendu parler, c'est celui des Sceaux Bleus. Les Sceaux Bleus, les gyrophares en Russie sont bleus. Et donc, les voitures, beaucoup de voitures officielles ont été cause d'accidents mortels. Donc, il y a eu un mouvement, à la suite d'un accident particulièrement odieux. Je vous passe les détails parce que c'est un peu long. Donc, il y a eu cette mobilisation, dite des Sceaux Bleus, puisque donc, les manifestants mettent un petit sceau sur leur voiture. Et donc, là aussi, on a donc un nouvel argument, c'est-à-dire un argument de l'égalité devant la loi. Donc refus donc de cette hiérarchisation qui fait que une certaine élite a le droit d'écraser dans tous les sens du terme au propre et au figuré ses concitoyens. Donc et deuxième dimension qu'on va retrouver, c'est une dimension carnavalesque. Donc vous voyez, on a déjà des éléments qui sont épars. Troisième temps je vais regarder quand j'ai commencé. Donc troisième temps, je voulais m'arrêter sur un mouvement particulier qui a été celui, une sorte de galop d'essai de ce qui s'est passé donc depuis ces derniers mois. Donc c'est la mobilisation qui a eu lieu autour de la forêt de Rimki, de la défense de la forêt de Rimki. Donc c'est une forêt à la périphérie de Moscou qui est une région qui est habitée par justement cette classe moyenne dont on vous a beaucoup parlé ces temps derniers. Donc effectivement, besoin de jeunes Russes, puisque la classe moyenne est composée de trentenaires, essentiellement, donc jeunes Russes qui éprouvent un besoin de qualité de vie et qui se sont installés donc, dans des endroits moins pollués, etc. Et donc cette forêt, un beau jour, donc, une personne qui va devenir importante dans les leaders qui s'appelle Chirikova, se promène et découvre que les arbres sont marqués, qu'il y a des arbres marqués, elle se renseigne, elle trouve sur Internet qu'effectivement, on a prévu un passage d'autoroute. Et donc, cette femme, qui est typique de cette nouvelle classe moyenne, qui a une double formation d'ingénieur et un MBA, qui a créé un bureau d'ingénierie avec son époux, qui a travaillé dans un centre qui s'appelait de façon très emblématique Business Innovation. Donc, elle se met à utiliser son savoir-faire de marketing pour mobiliser les gens autour d'elle et lancer donc ce mouvement de défense de la forêt de Rimki. Donc, d'abord, mouvement très localisé, de voisinage, et qui va donc prendre de l'ampleur. Et c'est cette scénographie que je vais vous raconter. Donc, qu'est-ce qu'on remarque dans la façon dont c'est déroulé? Donc ça commence en fait dès 2008. Il y a plusieurs épisodes. Il y a un premier épisode tragique qui montre qu'on est toujours dans un système répressif, donc qui est le fait qu'un journaliste qui a dénoncé ces agissements et battu et sort très très diminué, donc infirme de ce passage à tabac. Et donc ça c'est la se greffe sur cette protestation, différents modes de dialogue d'adresse au pouvoir. Première chose, effectivement, donc, que je voudrais souligner, c'est le fait que ces militants vont s'adresser au pouvoir. Alors d'abord, aussi au pouvoir français, je vais vous lire une phrase pour vous camper un peu ces personnages, puisque donc c'est Vinci qui a le chantier, et donc je vous lis une lettre envoyée à Monsieur Sarkozy. Nous considérons que le représentant d'un État civilisé où on ne coupe pas les forêts pour en faire des routes, où les verts sont au Parlement, peut conseiller au président de Vinci de ne pas participer à des projets odieux tant qu'ils ne sont pas sans danger pour l'écologie. Vous voyez, on a, premièrement, vous constaterez une idéalisation de l'Occident, et deuxièmement, donc, la volonté de se mettre dans un discours direct avec le pouvoir, qui va se traduire aussi par des lettres ouvertes envoyées à Dmitri Medvedev. Donc ça, c'est une deuxième chose. Deuxième modalité de protestation, ça va être se saisir du droit, qu'on a vu déjà tout à l'heure avec les automobilistes. Chirikova va tenter de briguer la mairie de Rimki, le lieu donc stratégique de cette affaire. Donc là aussi, on va essayer de la débouter, etc. Elle va réussir à faire enregistrer sa candidature, mais elle va pas être élue. En tout cas, donc là, elle se saisit du droit et après, ça va continuer. Elle et tout son groupe vont s'adresser à l'ombudsman, parce qu'il y a aussi un ombudsman en Russie, à la cour, au parquet, à la Cour de justice européenne. Donc, avec l'idée, la qualification des terres, enfin le changement d'attribution des terres, enfin d'affectation des terres, n'est pas conforme au code foncier. Donc s'appuyer sur des textes. Donc ça c'était une chose que je voulais montrer. Et donc toujours pour continuer dans la scénographie, le moment, il y a un moment donc où l'été 2010, ce sont les incendies. Qui sont un moment très important dans la mobilisation, puisque donc un certain nombre de personnes vont devenir citoyens, vont découvrir ce que c'est que le sens civique à propos de ces incendies, puisque vous savez qu'il y a une carence des autorités, et ce sont des simples citoyens qui vont beaucoup contribuer à éteindre ces incendies. À ce moment-là, donc... Le mouvement monte en puissance et va s'agréger autour de cela des concerts. Un grand concert qui va avoir lieu à Moscou. Donc j'ai écrit sur mon papier, on passe de la clairière à la place publique. On change vraiment de scène. Et à la suite de ce concert, donc là aussi il faudrait raconter une longue chose, mais en 20 minutes j'ai pas le temps, donc ça va s'appuyer sur une tradition du rock alternatif qui a eu un rôle important dans la période de la perestroïka. Toujours est-il qu'à la suite de ce concert, Medvedev annonce sur son vidéoblog que le chantier est suspendu. Le chantier est suspendu. Et donc, là aussi, il y a un échange de bons procédés. Tchirikova exprime sa reconnaissance et elle, je vais vous la citer aussi, « Nous avons besoin de routes comme de forêts et je pense que dans le pays qui a le premier envoyé un homme dans l'espace, nous pouvons le faire. » Donc, vous voyez, elle s'adosse à un sentiment patriotique. Suite à cette annonce, commence une série de concertations. Enfin, de concertation avec guillemets. C'est-à-dire qu'effectivement, il existe dans la constitution russe la notion de consultation populaire, et donc on organise des consultations qui sont plus ou moins truquées. Bon, là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est-à-dire qu'on oublie, par exemple, de prévenir Tchirikova et ses acolytes au bon moment, etc. Et là aussi, c'est intéressant, elle va dire, mais c'est une profanation de la décision du président. Donc, vous voyez, elle est toujours en train de... À ce moment-là, elle s'appuie sur le président... contre ces pratiques de démocratie dévoyées. Donc tout cela, cet épisode qui est plus ou moins démocratique, là aussi je ne peux pas rentrer dans les détails, parce que donc il y a des concertations qui ne marchent pas, il y en a d'autres où il y a un vrai tentative de dialogue, mais toujours est-il que ça se termine par un camouflet, puisque après ces belles concertations, en mois de décembre, finalement, il y a un décret qui annonce que le chantier va reprendre. Donc c'est un camouflet et qui est justement un moment où la colère va se cristalliser. Et donc là, j'ai marqué aussi, donc on passe de l'iPhone au meeting. Et le premier meeting, on va retourner dans la forêt. Le premier meeting, le premier grand meeting a lieu à l'été 2011. Ça s'appelle, les militants de ce mouvement organisent un grand camp d'été, une école d'été, alors où il y a de tout, il y a des promenades, il y a des lectures publiques, il y a des chansons, donc ça s'appelle le camp anti-Seliger, sachant que Seliger est le nom du camp qui tous les étés où on forme les jeunes pro-poutiniens. Bon, là aussi, vous avez dû voir des images. Donc, c'est un moment donc où monter en généralité, favorisé, je répète, par les incendies, là, tous ces de membres de l'opposition qui n'arrivent jamais à mobiliser plus de quelques centaines de personnes à leur manifestation régulière du 31, là aussi je vous expliquerai éventuellement. Donc il existait des mouvements d'opposition politique, mais qui n'arrivaient pas du tout à monter en puissance, donc qui s'agrègent à ce mouvement et qui font dire d'ailleurs à Limonov, que vous connaissez tous maintenant grâce à Carrère, qui font dire, ah, c'est le beau monde de l'opposition, et lui-même il boude cet événement, il n'en fait pas partie, comme il a boudé, vous le savez, on peut dire d'une certaine façon, les manifestations de décembre, et c'est donc un moment où on voit prendre ce que j'ai appelé donc l'alliance de la carpe et du lapin, où effectivement on va voir réunis autour de ce mouvement de défense de la forêt, à la fois donc des ultras de la gauche ultra et des nationalistes, sachant que le point commun, enfin entre la raison que donne Tchirikova pour s'associer aux nationalistes, est que ils sont attachés à leur terre natale et donc ils vont défendre la forêt. Donc là aussi c'est pour évoquer le fait que ce sont des associations pas très usuelles et pas très simples. Donc sur cela. Arrive le 24 septembre d'abord, le moment donc où est annoncé donc ce jeu de chaises musicales entre donc Medvedev et Poutine, et qui est donc un moment où vous comprendrez que c'est pris comme une claque pour beaucoup de personnes, par beaucoup de Russes, et pour eux c'est plus quelque chose d'indécent que de politiquement inacceptable. À ce moment-là, c'est pas un refus de Poutine, c'est un refus de modalités qui tiennent aussi peu compte de l'existence de gens qui, pendant, comme je viens de vous le montrer, se sont mobilisés et ont montré qu'ils avaient des choses à défendre, à dire, et voilà, je pense que... Et donc, arrive le 4 décembre, et là, je vais passer le relais à Anne, en espérant que j'ai respecté à peu près les 20 minutes.
Merci Myriam et merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors je vais effectivement continuer cette chronologie en revenant peut-être aussi sur des choses un petit peu plus générales éventuellement. Alors effectivement, cette date du 24 septembre et donc de cette passation de pouvoir annoncée et comme déjà réglée finalement par les deux dirigeants est en effet sonne, je dirais, le signe de la cristallisation de ces tendances qu'on pouvait déjà observer dans la société et que Myriam vient de vous décrire effectivement. On a souvent finalement décrit la société, disons, il est souvent de bon ton, on va dire, de décrire la société russe des années 2000 en particulier, et notamment ces nouvelles classes moyennes, ces nouvelles couches moyennes qu'on voit justement dans la rue ces dernières semaines, les avoir décrites sous les couleurs du cynisme. Une génération qui finalement serait ravie de s'enrichir facilement, de faire des carrières professionnelles très rapides et très jeunes, une génération diplômée je dirais, prête à finalement adhérer à ce qu'on a souvent appelé une sorte de pacte, de pacte de sécurité ou consensus finalement proposé, imposé par Vladimir Poutine à la société russe au début des années 2000, qui consistait à effectivement profiter aussi d'une période de croissance économique et de nouvelles possibilités et d'une reprise en main d'un certain nombre de rouages de l'État qui permettent en effet à l'économie de se redresser. Même si c'est toujours difficile de savoir ce qu'elle doit à l'action directe de Vladimir Poutine et de son entourage et de ce qu'elle doit à des phénomènes, je dirais, plus sous-jacents et objectifs qui sont liés, par exemple, au cours du prix des matières premières. Mais en tout état de cause, le résultat est que, effectivement, on a eu quand même, malgré le maintien de poches de pauvreté très important en Russie, notamment dans les milieux, dans les campagnes, quand même une augmentation globale du niveau de vie, une reprise de l'économie, une nouvelle diversification, surtout, je dirais, peut-être à la fin du deuxième mandat Poutine, et donc finalement des couches de la population plus jeunes, pas très nombreuses, puisqu'on sait que la Russie a une crise démographique tout à fait spectaculaires, mais enfin qui sont quand même celles qui comptent, je dirais, pour faire marcher le pays et pour lui dessiner un avenir aussi. Donc ces plus jeunes catégories éduquées, diplômées, avec un début de carrière prometteur, finalement vont adhérer à ce pacte de stabilité ou de sécurité qui consiste à finalement fermer les yeux sur la guerre en Tchétchénie, fermer les yeux sur les violations des droits de l'homme, fermer les yeux sur l'absence d'opposition, tout en étant peut-être conscient, mais en tout cas, ça passe, on va dire, par pertes et profits, au profit, effectivement, d'une possibilité de réalisation personnelle, de carrière, et d'assurer, en quelque sorte, d'assurer son bien-être et celui de ses proches, celui de sa famille, et en quelque sorte, le reste viendra après. Et c'est d'ailleurs pour ça que pendant très longtemps, on pouvait dire que ces fameuses classes moyennes finalement n'existaient pas dans le cas de la Russie, puisque qui dirait classe moyenne devrait dire non seulement un certain nombre de paramètres objectifs du point de vue des revenus, du niveau d'éducation, du type de profession, etc., mais aussi une capacité, je dirais, à orienter un pays dans le sens d'une démocratisation, d'une ouverture, d'un pluralisme. Et donc les débats faisait florès entre sociologues, politologues sur le fait que finalement la Russie, je dirais, faisait mentir en quelque sorte tout ce qu'on avait toujours pu dire dans les théories sociologiques ou politiques sur l'importance des classes moyennes pour la démocratisation d'un pays ou d'une société. Alors peut-être que finalement, ce qui se passe dans la Russie de la fin 2011, début 2012, et ce qui a été préfiguré justement, notamment dans les mobilisations que Myriam a analysées à l'instant, c'est peut-être un changement, justement, un glissement et un épuisement de ce supposé ou réel cynisme qui était attribué à toutes ces catégories, un coup d'arrêt à cette disposition, et au contraire, je dirais finalement le renversement du cynisme qui devient celui du pouvoir. Et c'est celui du pouvoir qui d'un coup finalement est en quelque sorte vient au premier plan. Alors peut-être qu'auparavant il y avait deux cynismes qui se trouvaient bien l'un l'autre et qui se ménageaient les uns les autres, je dirais, pour vivre chacun de leur côté. Et puis là, il y a effectivement autre chose qui se passe. Et moi déjà, les gens m'ont dit, dans mes séjours récents en Russie, justement, que le peuple ou la population ne supportait pas le cynisme des dirigeants. Un autre collègue sociologue parlait de la cascade du mépris, qui avait été vraiment extrêmement mal vécue par la population et qui va du coup finalement provoquer ce détournement, le fait que la population va se détourner d'un dirigeant qu'elle avait pourtant soutenu jusque-là. Parce que finalement, on a quoi ? On a deux dirigeants qui s'échangent leur place. C'était pas forcément inattendu. On pouvait, en tout cas, vu en tant qu'observateur, on pouvait s'y attendre. Donc, la question qu'on peut poser à tous, y compris aux gens qui sont dans la rue aujourd'hui, c'est est-ce que vraiment vous ne vous y attendiez pas ? Donc, qu'est-ce qui a provoqué le fait que ça ? Qu'est-ce qui a provoqué chez vous ce sursaut finalement inattendu quand, au soir du 24 septembre, vous avez compris que tout était déjà réglé pour vous ? Parce que en fin de compte, si Medvedev s'était représenté pour un second mandat, moi c'est une question que j'ai posée plusieurs fois ces derniers mois à un certain nombre de gens, qu'est-ce qui se serait passé du point de vue, du strict point de vue de la technologie électorale ? Il n'y aurait pas forcément eu moins de fraude. Parce qu'on peut considérer que lors des dernières élections à la Douma ou lors de l'élection présidentielle de Dmitri Medvedev, il y a eu aussi ces falsifications. Elles avaient pris moins d'ampleur, elles avaient en tout cas été moins connues, elles avaient été moins expérimentées personnellement par les individus eux-mêmes, par les citoyens. Et ça, je vais y revenir dans un instant. Donc en fait, on aurait très bien pu avoir le 24 septembre Medvedev disant qu'il se représentait pour un second mandat et des élections. Il prenait la tête du bloc Russie Unie pour les élections législatives et il y aurait peut-être eu le même résultat. Et il n'y aurait sans doute pas eu de gens dans la rue au soir du 4 décembre. Donc là, il y a quand même quelque chose qu'il faut effectivement analyser. Donc qui est cette affaire du cynisme, effectivement, de la manière dont les gens ont l'impression que tout a déjà été décidé pour eux et que c'est même plus la peine qu'ils se déplacent, alors qu'ils ont des choses à dire, alors qu'ils ont déjà montré qu'ils avaient des choses qui ne leur plaisaient pas, qu'il y avait un désir de changement. Que ce désir de changement, d'une certaine manière, Medvedev l'avait incarné au départ. On avait vu un changement de rhétorique quand même qui était, on était sorti de la grande, je dirais, des 8 ans de la rhétorique patriotique, grandeur de la Russie, redressement national, verticale du pouvoir, dictature de la loi, enfin, etc., etc., tous ces éléments de langage du régime Poutine, pour passer à une rhétorique de la modernisation. Mais une rhétorique de la modernisation qui finalement ne se fait pas, et dont les gens justement les plus, je dirais, conscients de la nécessité de cette modernisation se rendent bien compte qu'en fait ça n'aboutit pas, que c'est un discours qui tourne à vide. Alors soit parce que Medvedev n'en a pas l'intention, soit parce qu'il le voudrait bien mais qu'il n'en a pas les moyens, parce que il y a autour de lui l'appareil d'État mis en place par Vladimir Poutine qui ne lui donne pas les moyens d'un véritable changement, qu'il n'en a peut-être pas non plus la vision, qu'il ne sait peut-être pas s'entourer des bonnes personnes, mais en tout cas que ça ne se produit pas. Alors moi, des gens m'ont aussi dit ces dernières semaines, quand je leur posais la question, mais finalement, si vous voyez bien qu'avec Medvedev, pas grand-chose ne s'était passé concrètement, donc qu'est-ce que vous auriez attendu d'un deuxième mandat Medvedev, finalement, qui vous aurait plus satisfait que le retour de Poutine ? Et on m'a répondu plusieurs fois, bah, finalement, l'idée que bah, ça permettrait de préparer l'avenir pour la prochaine fois, pour préparer une véritable alternative. Alors, ça peut être aussi, je veux dire, les gens peuvent être, ça peut être une illusion, hein, mais en tout cas, c'est ce que, voilà, m'ont répondu un certain nombre de gens à qui j'ai posé cette question ces derniers mois. Donc, ça veut dire, à mon avis, qu'il y a quand même une véritable épuisement de la légitimité du système Poutine, même si il aurait pu être réélu sans doute aujourd'hui, même sans les fraudes, au premier tour ou pas au premier tour, c'est difficile à dire, en deuxième tour très vraisemblablement. Donc c'est pas une simple question électorale, voyez, de pourcentage électoral, c'est quand même la question d'un système où, je dirais, l'alternance et le pluralisme ne sont quand même pas les valeurs les plus partagées, et où effectivement un leader qui est élu avec 52 ou 53% des voix, ce qui dans nos pays semble tout à fait la norme, je dirais, n'est pas du tout bon signe, hein, et le signe au contraire d'une rupture, le signe d'un fossé, le signe d'une rupture du consensus qui fait peur. Et il faut à tout prix éviter, de la part des dirigeants, je pense qu'il y a cette idée qu'il faut à tout prix éviter cette rupture du consensus, et donc que la victoire ne peut être que massive. Tout ce résultat aujourd'hui des 64% qui attestent, qui sont là pour essayer de continuer à prouver que le pays dans son ensemble, de manière massive, et beaucoup plus massive justement que dans les régimes politiques européens, est là pour assurer le soutien à Vladimir Poutine. Alors, pour ce qui est donc des je dirais plus, peut-être plus précisément de ces mobilisations, donc ces nouvelles classes moyennes, peut-être que celles finalement les habitants de Rimki que a décrit Myriam, et notamment avec la leader Tcherikova, et puis d'autres plus jeunes, des gens qui travaillent dans la sphère d'Internet, des jeunes universitaires, des jeunes qui travaillent dans le système bancaire et financier plus classiquement, des jeunes dans des domaines plus créatifs, eh bien, effectivement, ces gens-là qui sont en majorité dans la rue aujourd'hui à Moscou et dans les grandes villes, vous avez sans doute eu l'occasion, en écoutant la radio ou à la télévision, d'en entendre beaucoup, et ce sont ces gens-là qui vous disent très clairement que le système Poutine a fait son temps. Moi, j'en ai entendu un dire clairement que Poutine avait été tout à fait utile à la Russie. Donc, c'est pas, si vous voulez, des gens qui ont toujours détesté Poutine et qui, d'un seul coup, se réveillent parce que la possibilité leur en est donnée pour dire qu'ils sont contre ce pouvoir et qu'ils l'ont toujours été. Il y en a peut-être certains qui effectivement étaient, je dirais, dans la cuisine, comme on dit en Russie, ou en leur fort intérieur, des opposants de toujours et qui aujourd'hui descendent dans la rue. Mais je pense vraiment que pour la majorité des gens qui sont dans la rue aujourd'hui, c'est des gens qui effectivement, plus ou moins consciemment ou non, se sont accommodés de ce système. Peut-être qu'on pourrait aller chercher du côté de la servitude volontaire pour expliquer cet accommodement finalement, tout simplement. Tout simplement une notion de son intérêt, et puis à un moment donné ça ne fonctionne plus, et effectivement ça va vraiment déclencher une mobilisation, et l'élément cristallisateur c'est donc le 24 septembre, puis la campagne électorale. On voit quelques petits signes avant-coureurs quand notamment Vladimir Poutine se fait siffler lors d'un match de boxe où il va féliciter un vainqueur, et il y a des sifflets à son encontre. Ça prend un petit peu tout le monde de court parce que c'est la première fois, et puis bien sûr dans l'annonce des résultats, et encore une fois c'est pas tant les résultats en eux-mêmes, puisque finalement pour la première fois Russie unie, le résultat est, comme on dit, dessiné, fabriqué en quelque sorte pour justement tenir compte d'une montée en puissance de cette grogne et assurer à Russie unie la majorité relative bien sûr, mais juste un tout petit peu en dessous de la majorité absolue, donc finalement comme si toutes les apparences, je dirais, sont sauves, et donc finalement il n'y a rien de scandaleux à ce qu'il y ait un parti majoritaire, etc. Alors on peut effectivement d'ailleurs voir les choses comme ça, et il y a des partis d'opposition, il y a le parti communiste, il y a le parti de Jirinovski qui est là depuis 1989, qui fait toujours des campagnes très, très très tonitruante, notamment sous le coup de la personnalité de son leader, mais qui se rallie toujours finalement au pouvoir dès qu'il s'agit de voter une loi au Parlement. Et puis ce parti Russie Juste, qui est une sorte de d'opposition maison, qui serait le centre-gauche, une sorte de fibre sociale, de composante sociale de la grande nébuleuse du pouvoir. Donc s'il y a véritablement aussi autant de contestations le soir même des élections, c'est grâce à, je dirais aussi, une véritable mobilisation, alors là, qui est vraiment immédiate, enfin, qui précède de quelques semaines ou quelques jours les élections, qui sont les observateurs. Donc ça, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que c'est véritablement une école de la citoyenneté, dans laquelle se sont engouffrés à la fois un certain nombre de gens qui étaient dans ces mobilisations qu'a décrites Myriam depuis quelques années, mais aussi des gens qui s'y sont inscrits. Ça, il y a eu un véritable effet boule de neige, effectivement, de là, cette fois, on va pas les laisser faire ce qu'ils veulent, on va aller regarder ce qui se passe. Et moi, j'en ai parlé avec plusieurs personnes, je pense notamment à des amis dont le fils qui a 19 ou 20 ans, donc c'était la première fois qu'il votait et qui s'est engagé comme observateur, qui a donc vu, je dirais, les falsifications s'opérer sous ses yeux. D'ailleurs, qui était un très jeune, il avait beau avoir suivi les cours de formation, il n'a pas su très bien forcément comment réagir face à ça, parce que je crois que ça dépassait un peu son entendement. En fait, il n'imaginait pas ce qu'il allait voir. Et il y a comme ça des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui ont vu de leurs propres yeux des choses dont ils avaient entendu parler, qu'ils avaient vu traîner sur Internet, sur Facebook, etc., etc., dans les précédents scrutins. Et je pense vraiment que ça a joué un rôle, je dirais, pour mobiliser, pour faire sortir les gens dans la rue, extrêmement important, et on peut vraiment l'appeler l'école de citoyenneté. Donc ça a fait sortir les gens dans la rue dès le premier soir des élections, dès le 4 décembre au soir, où là des manifestations non autorisées ont donné lieu à des arrestations, à la fois des leaders habituels de l'opposition qui ont l'habitude de ces manifestations non autorisées, par exemple Limonov, dont il était fait mention à l'instant, mais aussi Udaltsov du Front de Gauche et quelques autres, mais aussi des électeurs lambda qui sont sortis dans la rue et qui se sont fait arrêter, qui ont pour la première fois fait connaissance des locaux, enfin des méthodes de la police et des locaux de la police. Et ça aussi, c'est une forme d'école de la citoyenneté, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'ensuite, ensuite on appelle ou on envoie des SMS à tous ses copains qui savent que vous vous êtes fait arrêter, etc., etc. Et du coup, en tout cas, parmi les jeunes générations, ça fait boule de neige, effectivement, et ça plus une mobilisation qui est à noter, parce que là aussi il y avait quand même une atonie et une apathie assez généralisée de la part de l'intelligentsia culturelle et journalistique, à l'exception de quelques médias, depuis pas mal d'années. Là on a aussi un réveil d'un certain nombre de journalistes très connus, qui sont pas justement des journalistes dits opposants systématiques, qui sont des journalistes respectés, respectables sur des grands médias, qui d'un seul coup disent que s'ils n'ont pas le droit de traiter de la manifestation, ils ne prendront pas l'antenne pour le journal du soir. Et donc là aussi, ça provoque quand même des petites mini-révolutions comme ça dans l'espace public, dans cet espace public dont justement on avait un peu tendance à considérer qu'il n'existait pas. Et ça contribue à créer l'événement. Et là, je dirais que là encore, autant il est facile de réprimer une manifestation de 30 personnes et d'en arrêter 28 sur 30, voire 240 sur 250, autant quand effectivement des partis d'opposition demandent une autorisation pour plusieurs dizaines de milliers de personnes et qu'il y a effectivement plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la rue, on n'est pas, et je ne pense pas qu'on ne soit même encore aujourd'hui ni demain, dans une configuration où en Russie les autorités vont prendre le risque d'une répression massive. Effectivement, elles le font là où elles sont dans les marges de ce qui n'est pas autorisé, et on voit bien aussi que d'ailleurs les ténors de l'opposition, je dirais, un peu respectables, raisonnables, qui négocient justement les trajets des manifestations, encore pour cette semaine, pour les jours qui viennent, vont faire justement, je dirais, font preuve de prudence, et que c'est plutôt cette tonalité-là qui domine effectivement depuis plusieurs semaines, et que je dirais des hypothèses ou des tentatives ou des tentations plus radicales qui pouvaient être celles, par exemple, des partisans de Limonov, hein, et de son ancien parti des nationaux bolcheviques, aujourd'hui interdit, d'une prise du pouvoir. Il y a je peux vous renvoyer, il y a le livre, bien sûr, d'Emmanuel Carrère sur Limonov, mais il y a aussi un livre très intéressant de Zahar Prilepin qui s'appelle Sankia, qui est l'histoire d'un jeune. Alors, ils nomment pas les Natsbol, mais on voit bien que c'est des Natsbol qu'il s'agit et qui se termine sur une tentative d'insurrection et de prise du pouvoir dans une région. On n'est pas on n'est en tout cas pas visiblement dans ce cas de figure là aujourd'hui, et je dirais que tous ceux qui étaient mobilisés autour de ce type de stratégie ces dernières années, et qui étaient effectivement souvent évidemment victimes d'arrestations, emprisonnés, etc., sont finalement plutôt marginalisés dans la contestation aujourd'hui. Et c'est pas du tout c'est une contestation très très pacifique, très généraliste, très hétéroclite aussi, hein, puisqu'au côté de cette classe moyenne donc qui descend dans la rue en fabriquant son panneau, en inventant un petit quatrain en vers, une tradition littéraire russe, en faisant des dessins, enfin bon, en inventant plein de choses, en détournant les slogans ou les critiques que le pouvoir adresse à l'opposition de manière extrêmement réactive et extrêmement, extrêmement vive, hein, et extrêmement amusante, je dirais, créative. Aux côtés de ces gens-là, il y a aussi des manifestants, je dirais, plus traditionnels, proches du Parti communiste, qui sont effectivement, quand on voit dans les photos prises de haut, on voit beaucoup de drapeaux rouges, mais effectivement, c'est ces drapeaux rouges. Mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de drapeaux rouges que... les drapeaux sont souvent rouges, mais il y a aussi beaucoup de gens sans drapeau, avec leurs petits panneaux et des petits panneaux, des photos satellites, on les voit pas. Donc, en fait, on peut avoir une vision un petit peu déformée de la couleur de ces manifestations. Il y a aussi les drapeaux noirs et jaunes des nationalistes. Myriam l'a évoqué à propos du mouvement autour de la forêt de Rimki, qui a effectivement cristallisé d'ailleurs à la fois de la contestation, on pourrait dire entre guillemets de gauche, alternative, où on retrouve certains courants qu'on pourrait appeler altermondialistes, anarchistes, etc., écologistes bien sûr, puisque c'est autour de l'environnement, mais aussi des nationalistes, voire des ultranationalistes qui, s'il y a aussi une tradition autour de l'environnementalisme russe qui est proche effectivement des nationalistes, mais on va retrouver tous ces gens-là, et on les retrouve aussi, bien sûr, dans les mobilisations aujourd'hui. Et alors, le caractère hétéroclite, effectivement, de cette opposition rend les choses très compliquées et fait notamment, je dirais, alors il y a peut-être une catégorie dont j'ai pas encore parlé, mais dont je sais encore... dont je n'ai pas encore parlé, mais qui me paraît intéressante de mentionner, c'est finalement tous ces gens, peu nombreux, mais emblématiques en même temps et intéressants à étudier, qui, depuis de très nombreuses années, se sont, sont peut-être des opposants de toujours au système Poutine, par calcul politique ou par ambition politique, mais qui sont tous les gens, tous les défenseurs des droits de l'homme, ou les gens qui sont, disons, soucieux de toutes les questions liées aux droits et aux libertés en Russie, et qui, finalement, ces dernières années, de plus en plus nombreux, se sont aussi mobilisés, notamment par le biais du droit. Myriam mentionnait encore tout à l'heure, effectivement, l'importance du droit, mais je crois que ça, moi, je l'ai vraiment observé aussi ces dernières années sur le plan des droits de l'homme, c'est pareil, c'est vraiment que... Et c'est peut-être d'ailleurs une des raisons aussi du mouvement d'aujourd'hui, c'est le fait que l'importance du droit, la sensibilité au déni de justice, la conscience aiguë par les citoyens des dysfonctionnements de la chaîne pénale, des dysfonctionnements de l'appareil judiciaire, pour moi, des révélateurs, vraiment, effectivement, des problèmes de fond, des problèmes structurels, des institutions et des pratiques administratives, judiciaires, policières, russes, aujourd'hui. Et ça, je pense que de très, très nombreux citoyens en sont conscients, pas seulement des gens qui sont des juristes, qui ont fait des études de droit, etc., parce que ça peut, je dirais, c'est l'arbitraire du pouvoir et l'iniquité du pouvoir peut atteindre chaque citoyen, bien. Ça peut être par son garage, ça peut être par sa cour d'immeuble au milieu de laquelle on va d'un seul coup décider de construire une tour. Ça peut vraiment être tout le monde. Hein, et là aussi, ça va forcément provoquer une école de citoyenneté. Enfin, en tout cas, il y a une catégorie de gens, je dirais, qui sont peut-être les défenseurs des droits de l'homme, entre guillemets, professionnels, peut-être traditionnellement dans la société russe assez mauvaise presse, qui sont souvent plus connus finalement en Occident que comme des figures courageuses à qui on attribue des prix des droits de l'homme au Parlement européen, au Conseil de l'Europe, etc., que dans leur propre société, où ils sont au mieux considérés comme des gens qui n'ont rien d'autre à faire de leur vie que de défendre les droits de l'homme, au pire comme des agents de l'étranger achetés, etc., par des services anglais, américains et autres. Et dans la dernière période, moi j'ai quand même pu observer aussi un léger changement de regard. Y compris vis-à-vis de cette catégorie de la population. On a vu notamment de très nombreux magazines un peu glamour de la scène moscovite et des grandes villes se mettre à s'intéresser à tous ces gens qui défendaient les droits de l'homme, y compris ceux qui allaient en Tchétchénie essayer de lutter contre l'impunité des crimes de guerre, et comme s'il était finalement devenu tendance de défendre les droits de l'homme, hein, tendance entre guillemets, alors qu'avant c'était ringard. Voilà, hein, c'est un peu cette idée-là effectivement, qui me semble quand même avoir une certaine réalité, parce que y compris moi je l'ai perçu, je dirais, une évolution de parler. J'ai quand même un certain nombre d'amis en Russie, des gens de mon âge, un peu plus âgés, qui ont des enfants, qui grandissent et qui commencent leur carrière. Et pendant pas mal d'années, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de sujets avec lesquels je ne pouvais plus parler avec un certain nombre de mes amis, et c'était pas forcément facile. Et assez curieusement, ces deux dernières années, je dirais, je me suis rendu compte qu'il était redevenu possible de parler de certains sujets, que des questions autour des droits de l'homme, parce qu'il savait finalement que je m'en occupais. Donc avant, c'était « Ah, tu viens encore t'occuper de je ne sais quoi ». Bon, je faisais un petit sourire, et puis on passait un peu prudemment à autre chose pour garder, je dirais, des bonnes relations. Et là, curieusement, je vois un jeune journaliste me dire « Ah, mais c'est formidable, maintenant donne-moi l'adresse de ton ami qui s'occupe des réfugiés ouzbeks, je vais aller l'interviewer pour mon journal, etc. » Voilà, donc c'est des petits signes, c'est bien sûr mes perceptions, mais enfin, je pense quand même que ça se reflétait aussi dans certains gros titres ou premières pages des journaux de ces derniers mois, avant même les échéances électorales. Donc je pense que ça a une certaine réalité. Ceci étant, ces gens qui sont des défenseurs des droits de l'homme, qui connaissent bien les mécanismes du pouvoir, parce que souvent ils sont, je dirais, à la fois porte, je dirais, les coups juridiques, hein, en essayant de traduire en justice des militaires, des policiers, etc., en se heurtant au dysfonctionnement de la justice. En même temps, ils essayent de participer à des commissions pour les droits de l'homme, à la chambre civique, etc. Donc, ils ont aussi une tradition de relation avec le pouvoir. Et ces gens-là, je les sens observer avec, bien sûr, intérêt ce qui est en train de se passer, mais aussi avec un certain scepticisme. Comme s'ils se disaient finalement, mais nous on n'a pas attendu l'automne 2011 pour savoir exactement ce qui se passait dans le pays. Ceux qui manifestent aujourd'hui, est-ce qu'ils manifestent pas finalement toutes ces classes moyennes, est-ce qu'elles manifestent pas finalement surtout pour elles-mêmes plus que pour l'intérêt général et le bien commun? C'est une question qui reste posée. On peut aussi répondre qu'il faut peut-être commencer par manifester pour soi-même et du coup petit à petit s'intéresser au bien commun. Ça peut être le cas de la forêt de Rimki, est assez peut-être assez emblématique. C'est pas donné non plus, c'est pas gagné non plus, c'est pas sûr. Mais en tout cas, c'est intéressant, je dirais, dans la dynamique de moyen et de long terme. Il me semble que c'est ça qui sera évidemment intéressant à observer, parce qu'il est certain qu'aujourd'hui ces jeunes, on pourrait les appeler des bobos moscovites, qui manifestent finalement, sont sans doute plus soucieux de ne plus se heurter aux tracasseries administratives, à la corruption des fonctionnaires lorsqu'ils veulent acheter un appartement, lorsqu'ils veulent enregistrer une entreprise au registre du commerce, lorsqu'ils veulent modifier quelque chose dans leur activité, lorsqu'ils veulent porter un projet artistique ou autre chose. Donc il y a cette idée effectivement d'être, je dirais, qui est peut-être assez individualiste en quelque sorte, hein, de ne pas être empêché d'agir. Mais ça ne veut pas dire pour autant que cette prise de conscience individuelle, alliée effectivement à l'observation directe, hein, de la fraude électorale et donc de ce qui est considéré comme le cynisme du pouvoir dont on ne veut plus s'accommoder, ne puisse pas déboucher sur des prises de conscience plus collectives. En même temps, je vais peut-être conclure là-dessus, un ami collègue que connaît bien Myriam aussi, qu'elle a rencontré récemment, Alexandre Bigbov, qui est vraiment une personne qui a une analyse extrêmement intéressante sur la Russie et qui pourrait être là ce soir parce qu'en plus il parle parfaitement français, soulignait en ayant mené beaucoup d'entretiens dans les manifestations auprès justement de ces manifestants, à quel point finalement les questions sociales précipitent dans les rues les fameux indignés qu'on peut voir sur les places des capitales européennes ou aux États-Unis ou peut-être même dans les capitales du printemps arabe sont absentes en fait des préoccupations voire même de connaissances de ces gens qui sont dans la rue et qui n'ont effectivement que très très peu d'idées de ce que peut être, de ce que pourrait être, hein, un agenda social de la différenciation sociale qui existe en Russie, de la part de la pauvreté, des personnes sans ressources, enfin, ou de toutes ces questions-là qui effectivement sont très très loin de leurs préoccupations, à l'exception bien sûr de certains groupes militants qui portaient déjà par le passé ces revendications sociales et qui continuent à les porter, mais qui sont quand même, assez minoritaires, en tout cas dans les gens qui sont dans la rue. Voilà, je vais m'arrêter là et puis on pourra continuer avec des questions.
Merci beaucoup Anne Le Houerou et Myriam Désert sur nous avoir présenté cet arrière-fond sociopolitique, les différents éléments qui ont conduit à la situation dans laquelle on est. Je crois qu'il y a certaines choses qu'on avait en tête, d'autres qu'on n'avait absolument pas, et je crois que ça dresse bien le tableau. Alors, on a une demi-heure pour pouvoir sûrement demander des précisions, peut-être ouvrir aussi des domaines que vous n'avez pas eu l'occasion d'ouvrir. Le micro va circuler. Merci Henri. Peut-être une question puisque moi j'ai déjà le micro, je vais en placer une. Peut-être une chose sur ces manifestations qu'on a vues. On a l'impression que c'est très très moscovite. Ça se passe à Moscou. Qu'est-ce qu'il en est dans les provinces russes? Est-ce qu'il y a un peu cette même évolution des sensibilités ou est-ce que ça resterait dans un milieu assez particulier?
Donc c'est un problème de masse critique. Donc c'est pas simplement Moscou, c'est dans toutes les grandes villes. Donc c'est essentiellement donc Moscou et Saint-Pétersbourg, et vous savez que ce sont les deux villes où Poutine n'est pas arrivé en tête, enfin si, est arrivé en tête, pardon, mais n'a pas eu les 50%. Donc ça c'est pour en termes de vote, mais en termes de manifestation, dans toutes les grandes villes de province, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait au moins 1 million d'habitants, donc c'est vraiment une sorte de masse critique. C'est-à-dire parce qu'effectivement ce sont cette classe moyenne, et cette classe moyenne elle n'existe que dans des centres ayant un certain nombre d'activités bien particulières. Il faut qu'il y ait des banques, il faut qu'il y ait... parce qu'ils appartiennent à un certain système qui n'est pas représenté partout. Donc il y a des endroits où, je veux dire, les gens n'étaient même pas au courant qu'il y avait des manifestations, à la limite. S'ils regardaient que la télévision, or il y a toute une Russie qui ne voit que la télévision. Il y a la Russie qui dépend des chaînes publiques et la Russie qui a accès à Internet. Et donc ça fait la différence, mais ça se limite pas. Alors ça peut être dans des endroits très très reculés, par contre, hein. On peut avoir des gros centres en province, mais qu'est-ce qu'il y a comme qu'est-ce que tu donnerais comme ville, hein, où il y a eu des grandes manifestations là?
Il y a eu Novosibirsk, Irkoutsk, Ekaterinbourg, Kaliningrad, il me semble, où il y avait déjà eu des mobilisations, justement. Et comme Myriam l'a bien dit, hein, ces mobilisations des dernières années, elles étaient souvent en province, en fait. Elles étaient souvent en province et elles étaient souvent éclatées parce qu'elles concernaient des réformes locales. Donc elles n'avaient pas, la cristallisation ne pouvait pas se faire. Et là, c'est l'échéance, effectivement, qui était une échéance pour toute la Russie, qui a du coup provoqué provoqué cette cristallisation. Mais en fait, en réalité, autour des questions de, bah, de la monétisation des avantages sociaux, les questions autour des voitures, autour des problèmes de logement, etc., il y a eu beaucoup de mobilisation en province. Alors, pas avec des dizaines de milliers de personnes dans la rue, mais quand même, je dirais, la province a bougé ces dernières années, et la province, il y a aussi... La province urbaine, oui. Et la province qui est aussi... Alors, il y a aussi une partie de la province, sans doute, qui sont ces par exemple, des villes plus petites, mais très riches, qui sont les villes du pétrole et du gaz, qui, elles, ont hyper profité du système Poutine et qui constituent encore des soutiens assez puissants au système Poutine, bien évidemment, même si on peut considérer que les gens qui travaillent, les cadres des entreprises pétrolières, par exemple, peuvent être aussi assimilés, après tout, à ces classes moyennes. Hein. Il faudrait là aussi, bien sûr, avoir des définitions, parce que les fonctionnaires locaux et régionaux, les personnels administratifs, pour une partie d'entre eux, a lui aussi, d'un point de vue matériel, bénéficié des années Poutine. Et ces gens-là continuent à dépendre. Je ne sais pas s'ils idolâtrent toujours leur président, mais en tout cas, ils continuent à dépendre de ce système. Donc, ça, c'est aussi encore des soutiens. Donc, là aussi, il n'y a pas toute une population contre un président qui se maintiendrait au pouvoir totalement de force.
Alors, prenons des questions. On va monter. Olivier, tu étais le premier levé. Voilà, lève bien encore. Lève, voilà, tout en haut. Voilà, pour qu'on te voit bien. On va en prendre deux ou trois.
Oui. Trois questions. Bref,
Olivier.
Quels sont les intérêts de la Russie dans le soutien au régime syrien? Deuxième question. Est-ce que les mouvements que l'on a vus peuvent être considérés comme des répliques des séismes, des révolutions arabes et des phénomènes d'indignés, comme vous l'avez un petit peu évoqué? Et troisième question, est-ce que ces mouvements pourraient être exportés vers la Chine?
Voilà, on est sur les domaines internationaux. Eh bien, alors, vous relevez la main, ce qu'on va redescendre par ici. Voilà, madame, et puis après on reviendra. Rassurez-vous.
Voilà. Madame, on sait qu'aujourd'hui, en 2011, il y avait 51 millions d'internautes en Russie, donc qui peuvent accéder aux réseaux sociaux. Ces classes moyennes dont vous parlez à Saint-Pétersbourg, à Moscou, à Vladivostok, à Novosibirsk, etc., vous paraissent rassembler combien de personnes mobilisées? C'est une question. Une deuxième, c'est quelle chance donnez-vous à Navalny, par exemple, de fonder, comme il en a, paraît-il, l'intention, un parti qui pourrait fédérer ses oppositions? Et troisièmement, vous parliez des grandes télévisions publiques. Qu'est-ce qu'on peut ressentir actuellement à ORT ou à NTV, par exemple, de ces sensibilisations aux fraudes?
Très bien. Chaque intervenant a trois questions. Alors, on redescend par ici. Voilà. Si vous en aviez une seule, c'est bien. Hein. C'est pas...
Pensez-vous que les classes moyennes vont continuer à pouvoir diffuser leur souhait, alors que l'on sait que les organes, l'appareil d'État et tout ce qui est média est contrôlé à 100%. Je ne dis pas à 99, à 100%.
Et puis on va terminer par la question qui est au premier rang, et après vous aurez le temps des réponses.
Est-ce que vous ne pensez pas que tous ces mouvements de contestation que vous avez évoqués ne sont pas qu'une gigantesque mascarade d'un esprit totalitaire qu'il a fallu ouvrir en apparence avec l'ère Medvedev au moment où la Russie, depuis une dizaine d'années, frappait à la porte de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce? Je crois qu'elle a obtenu un accord maintenant. Et que par conséquent, Poutine peut revenir. Poutine n'est plus Poutine 1 du KGB, mais devient Poutine maintenant des accords de l'OMC.
Merci bien. Je crois qu'il y a de quoi un peu s'occuper là.
Je peux commencer par ORT rapidement?
Oui. Par la télévision?
Oui, la télévision, parce que donc justement, je me suis appliquée à regarder la soirée électorale sur la 1. Enfin, donc j'ai essayé de zapper entre la chaîne 1 russe, parce que justement, ça m'intéressait de voir comment c'était, ce que allait pouvoir voir le citoyen lambda russe. Et donc ça moi j'ai été très très étonnée, c'est-à-dire que là toute l'opposition a défilé. Toute l'opposition s'est exprimée. Zyuganov n'est pas venu. Zyuganov, donc le leader du Parti communiste n'est pas venu, mais Ouda Eltsov, donc le néo-bolchevique qui le soutenait, était là et est resté longtemps sur la. Donc il y avait une table ronde et il y avait des gens dans la salle qui étaient des journalistes de différentes sensibilités. Et donc là, il y a eu une vraie expression alors, qui était soulignée. On va peut-être revenir effectivement sur le thème de la mascarade. C'était clair que l'animateur, donc on a entendu des leaders d'opposition tenir des propos très très violents contre le système politique, et donc l'animateur disait mais voilà, liberté de parole. Donc on couvrait son discours avec le terme liberté de parole. Donc là il y a eu un vrai pluralisme audible. En même temps, c'était clair que la consigne du présentateur, c'était d'obtenir que tous ces gens-là reconnaissent les élections comme légitimes. Il n'a pas réussi à le faire dire à tous. Jirinovski a tout de suite dit oui. Jirinovski, lui, il n'y avait même pas de fraude. Jirinovski expliquait que lui, là où il était, donc Jirinovski s'est tout de suite râlé. Mironov, celui de Russie juste, s'est rallié assez vite aussi. Prokhorov a biaisé, mais donc c'était clair qu'il fallait afficher le fait que cette opposition qu'on laissait parler, en même temps, acceptait l'état de fait. Et hier soir, donc j'ai regardé aussi les informations hier soir, donc on montrait Poutine recevant trois de ses adversaires, puisque Zyuganov, le leader du Parti communiste, avait refusé de venir. Donc il était là en train d'expliquer à ses trois interlocuteurs, donc Prokhorov, le libéral, Mironov, donc le clone du Parti communiste, on va dire, et Jirinovski. Et donc Poutine tenait un discours de respect. Il utilisait le terme respect, etc. Donc il y a justement, il y a une mise en scène en tout cas d'un dialogue et d'un pluralisme. Mais par contre, alors moi je suis persuadée qu'avant c'est pas une mascarade. Enfin ça a complètement échappé au pouvoir. Autant là, peut-être on est dans une mise en scène. Autant avant, je crois absolument pas à votre hypothèse. Enfin, je ne sais pas si toi tu. Non, ça me semble exclu.
Non, par contre, sur la question du mot de mascarade, et tout à l'heure, Myriam, tu avais employé le mot de carnaval. À propos. Moi, je pense qu'il y a effectivement. C'est pas fou
c'est pas
de
pareil.
Dire qu'il y a. Non, qu'il y a une dimension carnavalesque, au sens fort, anthropologique du terme, dans les mobilisations.
Tout à fait.
Et dans le ton qu'elles prennent, effectivement. Et y compris dans le fait, d'ailleurs, de l'idée du renversement de l'idole qu'on a adoubé pendant 10 ans, et finalement, où d'un seul coup.
Et comme le carnaval, ça dure 15 jours.
Voilà, et d'un seul coup, on se met à lui reprocher tous les maux, alors que, voilà, avec ce fameux. Alors, ça me permet de répondre en même temps à la question autour de Navalny, le fameux blogueur devenu monté en puissance, monté en graines, à l'applaudimètre de tous les meetings, largement en tête. On l'a encore vu hier soir sur le meeting de la place Pouchkine. Là aussi, bon personnage ambigu, personnage très ambigu, qui alors là justement est peut-être tout à fait le signe de cette lutte juridique, de cette lutte par le droit contre la corruption, puisqu'il est juriste, qu'il a fondé une association justement qui traduit en justice des entreprises accusées de corruption, donc il a une certaine légitimité de son action. C'est pas seulement justement au départ, c'est pas un politicien. Donc il y a cet aspect-là, il y a l'autre aspect du personnage qui est quand même l'aspect nationaliste, voire ultranationaliste, qui, je dirais, entre lui et d'autres mouvements nationalistes, qui a quand même, alors ça a un petit peu disparu les derniers temps, mais à l'automne en tout cas, et même dans les premières manifestations, avait quand même mis beaucoup ce qu'on pourrait appeler avec beaucoup de guillemets la question nationale au devant de la scène des manifestations. Et ça, c'est une question qui n'est pas tellement résolue entre les leaders de l'opposition plus ouverts, plus démocrates et ces ultranationalistes. Et donc, ce que va devenir Navalny, moi, je sais pas. Pour moi, c'est pas très clair de savoir s'il veut continuer à galvaniser l'opposition, effectivement, et finir par créer son parti, ou se rallier derrière quelqu'un d'autre. Est-ce que lui-même veut devenir un chef de parti? Jusqu'à récemment, j'en avais pas tellement l'impression. Là, c'est vrai qu'il dit autre chose. Il y a d'autres tentatives de création de parti, avec le fameux Parnasse, dont tu pourrais...
Non, ou toi.
Voilà. Prokhorov. Voilà. Et Prokhorov, évidemment. Mmh. Alors là encore, ça permet peut-être de répondre à une autre des remarques que je formulerai peut-être pas comme ça, sur la question de la maîtrise à 100% de l'appareil d'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, quelque part, un État... Normalement, il maîtrise toujours à 100% les fonctions régaliennes qui sont l'armée, la police, c'est a priori justement ces fonctions. Après ça, la question c'est de savoir ce qu'il en fait du point de vue du pluralisme, donc la manière dont il va administrer la société, le pouvoir politique et les sphères d'autonomie qui vont être possible dans la société. Donc c'est finalement de ça qu'il est question. Donc je dirais que même quelque part, si Poutine contrôle aussi l'ensemble de l'appareil d'État avec les gens qui sont autour de lui, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné ils ne peuvent pas décider d'ouvrir le jeu. S'ils le décident. Et c'est pas, pour moi, les jeux sont absolument pas faits aujourd'hui. Je crois qu'on a beaucoup, peut-être encore plus avec la Russie qu'avec d'autres pays, hein, un peu l'habitude de penser que les scénarios sont écrits à l'avance. On a souvent des jeux autour de la théorie du complot, et c'est vrai que, je dirais, la manière dont sont gérées les affaires et un certain nombre de faits s'y prêtent malheureusement, je dirais, de coups tordus, d'affaires qui rappellent la guerre froide, des histoires d'espions et tout ce qu'on veut. N'empêche que là, je crois qu'on est vraiment, comme dans d'autres moments sans doute de l'histoire russe récente, hein, dans une période où, je dirais, la place de l'événement est importante et où les jeux ne sont pas forcément faits. Le pouvoir a sans doute, et différentes personnes au sein du pouvoir ont sans doute un certain nombre d'hypothèses, évidemment, et un certain nombre de scénarios écrits. L'opposition en a aussi d'une certaine manière, mais ça ne veut pas dire que les choses vont se passer comme chacun l'a prévu, parce que ce qui s'est passé depuis le mois de septembre était pas prévu. Ça, je le pense vraiment. Et si le carnaval, effectivement, dure 15 jours et qu'on peut siffler la fin de la récréation et que chacun rentre chez soi, c'est là qu'on va voir si c'est vraiment le cas ou si c'est les choses. Peut-être qu'effectivement les grandes manifestations de rue vont s'étioler petit à petit. Reste à savoir si ça voudra dire que la classe moyenne rentre chez elle, pense à ses prochaines vacances à l'étranger, voire à émigrer à Londres, à Paris ou à New York, ou bien si elle va effectivement se constituer rentrer dans des partis politiques, y compris celui qui serait créé par exemple par Mikhail Prokhorov, dont on a dit aussi que c'était éventuellement la marionnette ou la création du pouvoir, mais qui peut tout à fait prendre une certaine autonomie fort de ses presque 10%, hein, c'est ça, des voix aux élections. Donc ça, c'est pas non plus, pour moi, c'est pas du tout écrit. Et alors, sur les questions de politique étrangère, moi, j'avoue que ma relative incompétence sur l'exportation vers la Chine. Alors moi, je suis vraiment pas du tout une spécialiste du monde chinois. Je crois qu'il y a des contestations. J'avais eu des contestations au Kazakhstan au mois de décembre, mais elles étaient là aussi, enfin à la fois d'ordre social et bon, c'était un peu particulier. On sait qu'il se passe des choses en Chine depuis 2 ou 3 ans. C'est peut-être aussi le même phénomène sous-jacent d'une montée des classes moyennes. Hein, c'est possible. Ça ne veut pas dire du tout qu'on soit dans une logique d'exportation. De même qu'on n'est pas dans une logique non plus d'exportation des révolutions arabes, parce que justement, on ne sait pas les chômeurs diplômés qui sont dans les rues de Moscou et de Saint-Pétersbourg, par exemple. Hein. Et puis, bon, voilà, ne serait-ce que pour ça. Donc, je ne crois pas qu'on puisse faire de parallèle de ce point de vue-là. Quant à la position sur la Syrie, moi, je n'ai pas d'analyse particulière, si ce n'est que de ce que je peux lire et comprendre de ce qu'on voit en Russie, il y a le sentiment d'avoir fait une erreur en n'imposant pas le veto l'année dernière au moment de l'intervention en Libye, et que donc la Russie avait à nouveau perdu des points sur cette zone qui était traditionnellement une zone sur laquelle elle avait un certain contrôle quand elle considère avoir vu comment les pays qui avaient participé à l'intervention allaient se partager le pétrole libyen. Et dans le cas de la Syrie, où c'est moins la question directement du pétrole qui compte, mais la question de la position géopolitique et notamment de l'Iran et d'une peur, d'une certitude en Russie qu'il se prépare un conflit majeur avec l'Iran et que de ce point de vue-là, il faut rester en Syrie parce qu'on est à côté de l'Iran. C'est une des hypothèses que je fais. J'ai pas d'autres billes à vous donner particulièrement là-dessus.
Oui, sur cette question-là, je me permets peut-être d'ajouter l'un ou l'autre élément, connaissant un petit peu le Proche-Orient. Je crois que sur la question de la Syrie, c'est vrai que depuis 1991, depuis la conférence de Madrid, la Russie a perdu un peu tout rôle véritablement important dans la région, au niveau au moins diplomatique. Et donc elle n'a de cesse de vouloir un peu reprendre pied dans cette région, qu'elle n'a pas tant que ça d'alliés finalement. Elle a la Syrie, effectivement, elle a l'Iran, et donc elle ne peut pas se permettre de perdre ces alliés-là. Et que après l'affaire de la Libye, comme ça a été souligné, elle veut, je crois, sûrement montrer la Russie que, eh bien, rien que le temps où l'Occident décidait tout depuis une quinzaine d'années dans cette région est fini, et que la Russie, il faut tenir compte d'elle pour tout règlement d'une question internationale. Alors peut-être qu'elle se montre un peu exigeante de ce point de vue-là, mais c'est certain qu'elle veut un peu retrouver une audience internationale sur cette région qu'elle avait eu tendance à perdre. Et puis il y a un dernier élément qui est sans doute pas le plus important, mais qui me semble quand même assez symptomatique, et je crois que Poutine est assez emblématique de cela, je parle sous votre contrôle, c'est quand même l'anti-islamisme de Poutine. Non, vous ne seriez pas d'accord sur le fait que casser un peu du musulman, ça serait quelque chose qui pourrait être assez important pour lui. C'est-à-dire qu'il y a le fondamentalisme musulman, non ?
Non.
Ben voilà, c'est bien, ça va faire débat.
En tout cas.
Non, ben je suis un peu réducteur.
Au contraire, il se sert plutôt, il a tendance à se servir de ces 20 millions de musulmans.
À l'intérieur.
Non, à l'extérieur aussi, pour dire voilà, nous les connaissons, etc. Et donc nous sommes un interlocuteur.
Oui, et puis il y a une tradition de soutien de politique arabe de la Russie, de soutien aux...
Politique arabe, oui.
Mais
par rapport au fondamentalisme musulman, je pense qu'il y a de la part du régime une volonté de ne pas permettre que des mouvements islamistes puissent arriver au pouvoir. Voilà.
Et puis voilà, faire ce qui s'est
passé. Que...
Oui, mais d'accord.
Voilà.
De ce point de vue-là, oui. Mais ça, c'est vrai que après ça, sur la question du musulman et demi intérieur en Russie, il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire, même s'il y a en permanence un double discours qui consiste à mettre en avant le caractère multiethnique et multiconfessionnel de la Russie, mais en mettant toujours en garde contre la pénétration des mouvements islamistes, mais qui sont justement toujours vécu comme venant plutôt de l'extérieur, venant porter la division, voire téléguider de l'étranger. Mais ce serait encore un autre sujet qu'on n'a pas eu le temps d'aborder.
Alors reprenons une série de questions. Oui, vous avez le micro, et puis il y en aura peut-être d'autres tout au fond.
En ce qui concerne la Syrie, j'ai entendu il y a très récemment sur Radio Force Internationale qu'une des raisons pour laquelle la Russie est une alliée de la Syrie, c'est que la Russie a un port. Il y a un port qui est un port de guerre, contrôle la Méditerranée, enfin c'est sa seule implantation, et qui par conséquent ils ne veulent pas lâcher.
C'est l'influence dans la région, oui.
Et je vous rejoins aussi en ce qui concerne effectivement le fondamentalisme musulman, c'est qu'ils préfèrent le régime actuel qui contient les sunnites, parce que les alaouites c'est toute une histoire de Syrie, et que pour lutter contre la Tchétchénie et contre l'islam, ils sont tout à fait d'accord avec le régime syrien.
Voilà, il y a une question juste à côté, et puis on ira tout au fond après.
Oui, le sujet de la conférence, c'est où va la Russie. Alors, Est-ce qu'on peut caractériser très simplement la politique Poutine? Qu'est-ce qu'il voudrait faire de la Russie dans 15 ans? Et est-ce qu'on peut dire que l'opposition a une plateforme ou est totalement hétérogène? Est-ce qu'il y a un projet politique de l'opposition? Et est-ce que ce projet pourrait influencer Poutine? C'est-à-dire que pour éviter une contestation trop forte, sans en apparence rien céder, il pourrait appliquer partiellement ce programme, si tant est qu'il y ait ce programme, étant donné la totale hétérogénéité de cette opposition et son manque encore aujourd'hui d'organisation, de partis politiques et de structures.
Merci. On va prendre une dernière question, enfin peut-être pas une dernière question, mais en tout cas une question tout au fond.
Peut-être commencer à répondre en attendant la question.
On va l'attendre quand même parce qu'elle arrive tout de suite. Voilà, tout au fond, levez bien la main.
Merci. Moi, j'avais une curiosité sur la terminologie, sur les termes. Vous parlez de classe moyenne. On parle usuellement de classe moyenne. Apparemment, les personnes qui sont dans la rue, ce sont des gens éduqués, qui ont des moyens financiers, qui ont des moyens économiques.
Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît.
Vous dites qu'ils souhaitent partir à l'étranger, donc ce sont certainement des gens affluents, ayant de la richesse. Ce sont des gens qui accèdent à Internet, ce qui est déjà les qualifie. C'est vraiment la classe moyenne, c'est le milieu de la hiérarchie sociale russe ou c'est le haut de la hiérarchie sociale russe?
Oui. Merci.
Voilà, on y va. Oui, par rapport, je vais reprendre ma soirée de télévision russe de dimanche soir, puisque donc il y a la réponse, enfin la non-réponse à votre question. C'était très intéressant de voir donc le présentateur, pendant que Prokhorov était sur la Prokhorov, était donc présent, il dit, ben voilà, le résultat des élections montre que la Russie est libérale. On additionne Poutine et les voix pour Poutine et les voix pour Prokhorov et on arrive à 80%, il arrivait à 80% de Russes qui se prononcent pour un système libéral. Bon, Prokhorov a protesté en disant « je ne veux pas qu'on associe mes voix à celles de Poutine ». Donc on a vu cette première. Peu de temps arrive juste après Mironov, donc Mironov le grand perdant puisqu'il a 4% des voix, qui dit « j'ai perdu ». Mais j'ai gagné parce que mes idées sont dans le programme de Poutine et Poutine, c'est donc un social-démocrate. Donc vous voyez, donc le débat continue et justement quelqu'un dans ses invités, lui s'énerve en disant mais effectivement on en a assez. À chacun son Poutine. Poutine il est de droite, il est de gauche, mais en fait il n'est ni kakoy, enfin il est rien. Et il serait temps qu'il devienne quelque chose. Donc, vous voyez, donc il y avait effectivement, on retrouvait quelque chose qu'on voit depuis toujours, à chacun son Poutine. Se reconnaissent dans Poutine des gens qui disent, voilà, donc je suis un social-démocrate ou bien libéral. Et donc, justement, c'est ça, ça reste, et toujours dans cette même soirée électorale, quelqu'un disant, mais regardez, il a présenter un pseudo-programme puisqu'il a fait 7 articles pendant la campagne. Là, donc vous savez qu'il n'a pas participé au débat, mais il a fait 7 articles et quelqu'un soulignait qu'en fait c'est exactement le même contenu qu'en 2000. Donc on a toujours une non-détermination d'un programme Poutine. Donc alors face à lui, ben on a aussi une absence de programme. Donc, de toute façon, pour la question où va la Russie, dans les deux cas, ni du côté du pouvoir, ni du côté des opposants au pouvoir, on a de vrais programmes. Anne, tu as des choses différentes à dire par rapport
non,
à ça?
Non, pas, non, quasiment pas. Si ce n'est qu'effectivement, je pense qu'autour de la question de finalement d'une économie qui a connu un bond dans les années 2000, essentiellement grâce au gaz et au pétrole, mais dont on sent bien qu'il y a une nécessité de diversification, que c'est pas sain à long terme, etc., etc., que l'économie, la sphère des services s'est quand même développée, et que c'est dans cette sphère-là qu'il y a justement tous les gens de ces couches moyennes qui veulent pouvoir développer leurs activités sans être en but aux tracasseries administratives, à la corruption, etc. Donc il y a bien l'idée quand même d'une diversification de l'économie qui à long terme et soit la même d'assurer vraiment un vrai grand pays qui soit pas effectivement très riche de ses ressources naturelles, mais complètement en arrière sur plein d'autres plans. Donc c'était les grandes idées de Medvedev autour de la Silicon Valley, etc. Mais quelqu'un me faisait remarquer récemment que Prokhorov avait, semble-t-il, avec son argent d'oligarque, avait lui investi dans un certain nombre de villes. D'ailleurs, c'est sans doute, du coup, je ne sais plus qui j'entendais, dire que Prokhorov ne pouvait pas être populaire dans les villes de province. C'est pas forcément sûr, parce que, je dirais, lui et les autres personnes qui ont de l'argent, mais qui finalement, une fois leur fortune assurée, ont envie d'investir justement pour l'économie du pays, pourraient et n'ont pas envie d'être empêchés de le faire par l'appareil d'État, la bureaucratie, le FSB ou je ne sais qui, pourraient justement devenir, je dirais, pas majoritaire, enfin en tout cas tenter vraiment de percer derrière Prokhorov. De ce point de vue là, c'est pas complètement impossible, effectivement, d'imaginer que le pouvoir, ce Poutine 2 ou ce Poutine 3, un petit peu en manque d'idées, je dirais, s'appuie sur ces tentatives-là, voire sur ces réelles possibilités, parce qu'il y a de l'argent derrière pour le faire, pour effectivement tenter la modernisation que les discours que Medvedev n'a pas réussi à faire. Mais voilà, c'est une éventualité, mais j'ai aucune certitude là-dessus, parce que c'est de fait très très peu formalisé dans des véritables programmes, ça c'est clair.
Je voudrais rebondir là-dessus, ça me permettra de répondre aussi aux classes moyennes. Toujours dans la soirée électorale, Jirinovski expliquait le fait qu'il ait perdu énormément de voix dans l'extrême-orient russe et qui ont été gagnées par Prokhorov, par le fait c'est Rabotodatel, il est celui qui donne des emplois. Et justement, donc, et ça fait partie de la carte, et ça, c'était dans le discours de Prokhorov toujours cette même soirée de dimanche, où il mettait en avant je veux donner des emplois à la Russie et je veux donner des emplois qualifiés. Et donc il mettait l'accent sur il faut qu'on arrête effectivement il faut qu'on devienne un vrai pays industriel de transformation avec des emplois qualifiés, qu'on fasse des choses à une forte valeur ajoutée. Donc, transition pour la classe moyenne. Le problème de la classe moyenne, c'est effectivement un problème de définition. D'habitude, on a les trois critères usuels, c'est donc un revenu, un patrimoine et un capital symbolique. Si on prend, si on prend l'association des trois critères, on a une classe moyenne russe qui va être autour de 5%. Si on prend deux des critères, ça tourne autour de 15-20%. Si on rajoute un critère qui s'appelle donc d'autodétermination, c'est-à-dire se reconnaître classe moyenne, là, vous avez 70% des gens qui vont se définir comme classe moyenne. Alors que, effectivement, ils vont pas avoir de patrimoine parce que c'est très difficile. Donc, dans cette classe moyenne, on parlait tout à l'heure d'aller à l'étranger, c'est plus facile dans ces personnes qui gardent ou qui gagnent bien leur vie en Russie aujourd'hui de venir faire du ski, en France, que de s'acheter un appartement. On n'est pas du tout c'est très asymétrique. Enfin, on est dans des dépenses très différentes de ce qu'on a pour les classes moyennes ici. Donc je voulais rajouter quelque chose qui va permettre de revenir encore à Prokhorov. Il y a un terme qui s'est beaucoup développé là pendant ces derniers mois, la notion de classe créative. Et donc classe moyenne, donc je répète, c'est un fourre-tout. Au final, c'est un fourre-tout. Et donc s'est développée la notion donc de classe créative. Donc on a parlé beaucoup de cette créativité, notamment carnavalesque. On a eu beaucoup des slogans très très inventifs. Enfin, ça a été un régal de regarder tout ce qui s'est passé dans les manifestations. C'était vraiment très très créatif. Et donc moi j'ai fait des interviews comme Big Boff, donc demandant aux gens vous vous reconnaissez dans la classe moyenne? Non, mais si j'utilise le terme de classe créative, c'était oui. Donc effectivement, Prokhorov dit vouloir créer un parti pour cette classe créative dont il dit qu'elle est l'avenir de la Russie et qu'elle, justement, alors, lui, c'est là où doit aller la Russie. C'est utiliser ce potentiel créatif qu'on a vu, y compris donc, dans un mouvement d'opposition au pouvoir aujourd'hui. Donc on a vu une créativité une inventivité esthétique et linguistique et langagière. Donc là, il y a l'idée que toute cette inventivité peut être utilisée pour revenir dans une grande puissance industrielle que n'est plus la Russie.
On s'approche de la fin de notre rencontre, mais on va prendre une toute dernière question. Voilà, mademoiselle, oui, vous... Vous aviez une question tout à l'heure. Voilà, c'est bien vous. Voilà, attendez, le micro arrive à vous.
Oui, moi j'aurais eu aussi une question.
Ah, bah alors voilà.
Mais ça aurait été, quelles sont les ressources de la Russie, de ce pays, pour affronter l'avenir? On a l'impression d'une très grande faiblesse de l'extérieur.
Quelles sont les ressources de ce pays? Voilà, et on va prendre l'autre question.
On n'a pas parlé de l'Église orthodoxe. Et quel est son rôle dans... Est-ce qu'elle a soutenu Poutine? Voilà.
Ça valait la peine d'avoir cette dernière question. Merci.
Peut-être les ressources, parce que ça va être assez rapide. Donc, l'une des... Vous voulez, non, pardon, excuse-moi. Oui, je ne t'ai même pas demandé, excuse-moi. Donc, l'un des... On a vu que la notion de dignité était importante dans les mobilisations. L'un des agacements donc des gens qui se mobilisent, c'est effectivement le fait que la structure du commerce extérieur russe ressemble à la structure d'un pays en voie de développement. Qu'effectivement, actuellement, ce qui s'exporte, ça soit des matières premières, enfin essentiellement donc du gaz et du pétrole, mais d'autres matières premières. Et donc l'un des grands projets de Medvedev, et pas simplement de Medvedev mais de Poutine, c'est donc de faire la Russie numéro un des nanotechnologies. Donc je ne sais pas si, avec l'idée donc de la création d'un centre, d'une Silicon Valley russe à la périphérie de Moscou, qui est le grand projet de Skolkova. Alors qu'est-ce que va donner ce grand projet? Mais on est justement dans cette idée... utiliser notre grand savoir scientifique, qu'ils ont à avoir du mal. Donc, ils essaient de faire revenir donc toute cette matière grise qui a émigré. Et donc, l'idée, c'est tout mettre sur les nanotechnologies. Alors, la capacité des... J'en sais pas. Mais en tout cas, donc, c'est ça le projet. Je te laisse l'Église orthodoxe.
Oui, et je rajoute à la ressource que... Enfin, je pense en même temps que dans ce qu'on a dit ce soir, il y a aussi cette idée quand même de jeunes générations qui se sentent peut-être à nouveau concernées par l'avenir de leur pays, qui sont éduquées, qui sont pour une part créatives. Donc, enfin, c'est pas seulement le haut potentiel scientifique. Donc, je pense que là, il y a quand même aussi une certaine potentialité. Alors, sur l'Église orthodoxe, je suis pas du tout spécialiste, et je voudrais raconter une histoire, enfin une petite anecdote que raconter un ami justement très engagé dans l'Église orthodoxe. Ah bon, ce qu'on sait, je dirais un peu tout, c'est que l'Église orthodoxe est très légitimiste par rapport au pouvoir politique, et ce depuis longtemps, et particulièrement dans les années Poutine, que le pouvoir politique essaye d'utiliser l'Église. En même temps que l'Église a aussi, je pense, le souci de l'unité du peuple, de l'unité de la société, de la communauté. Et que je dirais un mouvement de contestation comme celui-là, en quelque sorte, il vient battre en brèche justement cette unité, et il oblige un petit peu l'Église à se positionner. Donc il y a eu effectivement un certain nombre de positionnements au moment des grandes manifestations d'après le 4 décembre, hein, entre celles du 10, du 24, où l'Église a d'abord dit qu'il ne fallait pas aller manifester. Ensuite, quand elle a vu qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui allaient manifester, elle a essayé de se proposer comme intermédiaire dans des négociations entre le pouvoir et l'opposition. Donc on l'a encore joué un rôle de...
Ce qu'elle avait déjà fait avant, en 93.
Ce qu'elle avait fait en 93, absolument, au moment de la crise du Parlement. Donc cette idée de l'Église rassembleuse. Alors juste pour terminer la petite histoire de cet ami donc très engagé, mais dans une paroisse extrêmement particulière de la banlieue de Moscou, qui était la paroisse du père Alexandre Lomien, qui était un prêtre donc très, très connu pour cet engagement en faveur de l'œcuménisme et qui a été assassiné dans les dernières années du régime soviétique. Mais disons que la tradition de cette paroisse s'est perpétuée à la périphérie de Moscou, et donc j'ai certains de mes amis qui sont très engagés dans cette paroisse, et donc je les ai vus le soir. C'était le lendemain de la manifestation du 4 février, et donc mon ami Vladimir avait passé la journée dans la paroisse, et à un moment donné était à un moment donné, le sujet était venu sur les manifestations, et le prêtre de la paroisse, en fait, lui a demandé, bon, se doutant qu'il avait dû aller à la manifestation, mais il n'osait pas trop lui demander, mais il a quand même fini par lui demander, est-ce que t'as des gens dans tes amis qui sont allés à la manifestation? Alors il a dit oui, puis après, mais, et toi, tu y as été? Mais oui, j'y ai été. Et là, il l'a pris dans ses bras, il l'a embrassé. Et donc voilà, c'était comme s'il était extrêmement lui-même soulagé. Alors, on ne sait pas si lui-même, le prêtre, y a été ou pas à cette manifestation. Mais en tout cas, il était très content d'avoir trouvé, il avait peut-être passé assez loin de Moscou, il n'avait peut-être pas pu s'y rendre. Mais en tout cas, m'a dit cet ami, on sentait un grand soulagement, une sorte de libération, parce que bon, lui était aussi de ce côté-là. Et du coup, comme ça, cette scène avait lieu devant un certain nombre de jeunes paroissiens, ça avait occasionné finalement tout un débat dans la rue par moins 20 sur le fait de savoir si effectivement là et donc cet ami Volodia expliquant à grand renfort d'arguments que on pouvait être croyant et ne pas forcément voter pour le pouvoir, que l'idée d'une adéquation totale entre l'Église et le pouvoir était une invention du politique et que ça durait depuis des siècles, mais que c'était pas du tout obligé d'être comme ça, etc., etc. Donc voilà, il avait prêché cette bonne parole devant quelques paroissiens d'une paroisse atypique, et dont il m'a dit lui-même, sache bien que c'est une paroisse atypique. Mais voilà, c'était ce petit témoignage que je pouvais vous livrer.
Voilà. Merci beaucoup, Anne Le Houerou, Myriam Désert, de nous avoir donné beaucoup d'éléments pour comprendre les évolutions de la Russie dans les jours, les mois et les années qui viennent. Je rappelle cet ouvrage dont vous êtes les co-auteurs, La Russie contemporaine, paru chez Fayard en 2010. Rendez-vous le mardi 3 avril prochain pour la prochaine soirée d'éthique publique qui aura pour thème, si tout va bien, parce que tout n'est pas encore complètement noué, les enjeux, les questions de transparence et de corruption en matière financière, là aussi tout un programme. Merci de votre fidélité et à bientôt.